Merci de rester à l'écoute de RFI, les 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une de ce journal, la Syrie, 10 jours après la chute de Bachar el-Assad, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à une transition inclusive et menée par les Syriens. La nouvelle gouvernance en Syrie est au centre de l'attention. On sera dès le début de ce journal à Idlib. Depuis 2017, cette province était notamment aux mains du groupe islamiste HTS, à la tête de l'offensive qui a fait basculer le régime syrien. En parallèle, la Commission européenne va donner 1 milliard d'euros pour aider les réfugiés syriens. L'annonce a été faite par Ursula von der Leyen en déplacement hier à Ankara. On y reviendra. Et puis dans le reste de l'actualité également, de la cire de bougie pour exploiter l'uranium en mer. Selon des chercheurs chinois, cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle voie pour alimenter les centrales nucléaires à partir des océans. En Syrie, 10 jours après la chute de Bachar el-Assad, un premier avion a décollé de l'aéroport de Damas en direction d'Alep, dans le nord de la Syrie, aujourd'hui. À son bord, notamment des journalistes. La situation du pays est également scrutée de près par la communauté internationale. Du côté des membres du Conseil de sécurité, dont font partie la Russie, soutien historique d'Assad et les États-Unis, un communiqué a été publié cette nuit. Il faut que la Syrie et ses voisins s'abstiennent chacun de toute action ou interférence qui pourrait mettre mal la sécurité de l'autre, peut-on lire. La question principale est celle de la nouvelle gouvernance en Syrie. Le groupe islamiste HTS, principale entité rebelle de l'offensive qui a fait tomber Bachar el-Assad, était à la tête d'un gouvernement de salut syrien depuis 2017 dans la province d'Idlib, une enclave de 4 millions d'habitants avec ses propres ministères, ses universités, ses hôpitaux et l'application de la charia, notamment pour les femmes. Notre envoyé spécial, Manon Chaplin, s'est rendu sur place.
Des femmes de ce café, on ne distingue que le regard. Elles portent toutes ici le niqab et sont assises dans la partie qui leur est réservée. Une palissade les sépare des hommes et des familles. Zakaria, le serveur, nous fait la visite.
Cela fait des années que c'est une tradition dans notre ville. Lorsqu'elle a été libérée du régime de Bachar el-Assad, ça a ensuite été imposé par une loi, par le groupe HTS. Tous les restaurants et cafés fonctionnent ainsi. Et cela va très bien à tout le monde.
À l'une des tables, 4 étudiantes partagent un thé. Elles viennent tout juste de sortir de l'université. Depuis 2017 et la prise de pouvoir de HTS à Idlib, elles y ont également des cours et des bâtiments séparés. Sans cela, Aoula n'y serait jamais allée.
Il y a de nombreux inconvénients à mélanger les hommes et les femmes dans une même classe. La première est que nous ne pouvons pas enlever notre voile. C'est moins confortable. Et puis, nous pouvons nous sentir timides ou gênés dès lors que nous devons faire un exposé ou poser une question.
À Idlib, un tiers des femmes portent le niqab. Le groupe HTS impose qu'elles soient également habillées de vêtements larges jusqu'aux chevilles. Et même si elles étudient, peu d'entre elles ont ensuite accès à l'emploi. Nour prend le soleil sur la place centrale avec ses deux filles.
Je souhaite que ces lois soient appliquées à toute la Syrie. Il y a ici beaucoup de respect envers les femmes. On se sent à l'aise comme si l'on était membre d'une même famille. En tant que femme sous le régime d'Assad, on avait l'impression de vivre dans une jungle. Ici, tout se passe bien grâce à Allah.
Depuis sa prise de pouvoir en Syrie, le groupe HTS multiplie les déclarations pour assurer qu'une certaine liberté sera accordée aux femmes et aux minorités. Pour le moment, aucune règle n'a été édictée. Une nouvelle constitution est en cours de rédaction. Manon Chaplin, Idlib, RFI.
Et au moment où tous les yeux sont tournés vers la Syrie, la Commission européenne va donner 1 milliard d'euros pour aider les réfugiés syriens. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, était ce mardi à Ankara, où elle a rencontré le président turc Erdogan. La Turquie accueille en effet 3 millions de réfugiés syriens, mais ils ne pourront pas tous retourner dans leur pays du jour au lendemain. La Commission européenne débloque donc ce milliard d'euros pour continuer à leur venir en aide. On en parle avec Pierre Benazé.
L'Union européenne met sur la table 1 milliard d'euros pour l'année 2024, des fonds qui seront donc débloqués rapidement et qui doivent servir d'abord à financer des projets éducatifs et de santé publique au profit des réfugiés syriens en Turquie. Ensuite, ces fonds contribueront, selon la présidente de la Commission européenne, à la gestion de la migration et des frontières, ainsi qu'au retour des réfugiés en Syrie, mais pas dans n'importe quelles conditions. Ursula von der Leyen.
La chute du régime Assad donne de l'espoir au peuple syrien, l'espoir de rentrer chez eux et de reconstruire leur vie. C'est le sentiment le plus naturel qui soit. Cependant, le manque de prévisibilité exige la plus grande prudence. Une chose est donc très claire, tous les retours doivent être volontaires, sûrs et dignes. Nous travaillons avec le HCR pour nous assurer que les conditions nécessaires sont remplies.
Afin d'obtenir que la Turquie maintienne sur son sol les réfugiés syriens et ne les pousse pas vers l'Europe, l'Union avait accordé deux enveloppes de soutien humanitaire en leur faveur de 3 milliards d'euros chacune. Et selon la Commission, ce sont au total près de 10 milliards d'euros que l'Union européenne a mis sur la table pour les réfugiés syriens depuis 2011. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Dans l'actualité également, la situation à Gaza et des perspectives pour une possible trêve et la libération des otages. Les négociations en cours à Doha, au Qatar, sont sérieuses et positives, selon le Hamas. En début de semaine, une délégation israélienne serait arrivée pour rencontrer des médiateurs, selon l'AFP. Ce lundi, d'ailleurs, le ministre de la Défense israélien avait également fait des déclarations allant dans ce sens. Les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proches d'un accord en vue de la libération d'otages dans le territoire palestinien, avait-il souligné. Alors que l'armée russe revendique la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une réunion à Bruxelles est organisée par le chef de l'OTAN aujourd'hui. Sont présents le président ukrainien et les dirigeants des principales puissances européennes pour évoquer donc cette guerre en Ukraine. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN en fonction depuis octobre, veut savoir comment aborder la nouvelle administration Trump et quelles perspectives peuvent s'offrir à l'Ukraine à l'heure où le futur président américain s'oppose à l'emploi par Kiev de missiles américains contre le sol russe et à l'heure où il souhaite des négociations de paix sur l'Ukraine entre Kiev et Moscou. Direction la Guinée. Il y a un an, dans la capitale Conakry, un dépôt de carburant de la presqu'île de Kaloum explosait. Bilan officiel, 23 morts, des milliers de sinistrés. Une enquête avait été annoncée pour incendie volontaire. Mais un an après, la société civile déplore le silence des autorités sur le sujet. De son côté, le ministre des Transports guinéen et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, défend l'action de l'État qui aurait, selon lui, mis d'importants moyens à disposition des sinistrés, dont le nombre s'élève à plus de 2140.
C'est faire quand même un mauvais procès de dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand on parle beaucoup, on nous taxe de faire de la propagande. Quand on est mesuré dans la parole, on nous dit qu'on n'en fait pas assez. Ce qui est clair, c'est que des centres de santé ont été touchés, notamment le centre mère et enfant Bernard Kouchner était complètement dévasté. Aujourd'hui, il est complètement rénové. Le collège et le lycée 28 septembre qui étaient complètement détruits et aujourd'hui debout. Et la prise en charge des familles se poursuit. Il y a plus de 24 concessionnaires dont les concessions ont été rénovées. Il y a eu 300 et quelques familles qui étaient des locataires. Chacune de ces familles, l'État a budgétisé et mis à leur disposition 7 500 000 francs guinéens pour leur permettre de trouver du logement et la prise en charge alimentaire se poursuit. Donc franchement, sauf à faire un mauvais procès à l'État, les autorités en place ont fait beaucoup de choses et continuent de veiller sur ces familles-là.
Des propos recueillis par Lisa Fabian. RFI, il est 18h08 à Pékin. Selon des chercheurs chinois, leur dernière trouvaille pourrait ouvrir une nouvelle voie pour alimenter les centrales nucléaires à partir des océans. Dans leur recherche, ils ont utilisé de la cire de bougie pour fabriquer des particules de gel à base d'eau capables de séparer efficacement l'uranium de l'eau de mer. Cette méthode pourrait contribuer à répondre à la demande croissante d'énergie au niveau mondial. De quoi offrir un moyen durable d'obtenir de l'uranium pour la production d'énergie nucléaire, Cléa Broadhurst.
Les réserves terrestres d'uranium pourraient être épuisées en un peu plus d'un siècle, selon les experts. Mais les océans contiennent 1000 fois plus d'uranium que les terres émergées, une ressource colossale qui pourrait alimenter le monde en énergie pendant plus d'un millénaire. Cette nouvelle technique pourrait permettre d'extraire l'uranium de l'eau de mer à un coût beaucoup plus faible. Cela pourrait garantir un approvisionnement durable et répondre à la demande croissante en énergie nucléaire, tout en préservant les ressources terrestres. Cela présente également un impact environnemental réduit par rapport aux méthodes d'extraction traditionnelles, souvent associées à la destruction d'habitats et à la contamination radioactive. Si cette innovation s'avère rentable, elle pourrait bouleverser la dynamique mondiale. Les pays qui dépendent actuellement des importations d'uranium de quelques fournisseurs clés comme le Kazakhstan, le Canada et l'Australie pourraient se trouver moins vulnérables aux fluctuations du marché ou aux tensions géopolitiques. Cela ouvre aussi de nouvelles perspectives en sciences des matériaux et en nanotechnologie, avec des applications potentielles pour la purification de l'eau ou le stockage d'énergie. Mais avant une adoption à grande échelle, des défis subsistent, notamment en termes de viabilité à long terme et de rentabilité. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, on retrouve Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins.